Donné ce matin, c'est vraiment dans la droite ligne de ce que j'avais à cœur de vous partager. J'ai un message ce matin qui m'a été inspiré par Eva, elle ne le sait pas, je ne lui ai pas dit. Mais c'est vraiment Eva ouais, qui m'a inspiré ce message. En tout cas, en voyant Eva à Noël, j'ai été interpellé, saisi finalement par le Seigneur et puis ça m'a parlé personnellement et j'avais envie de vous le partager aussi ce matin, alors j'espère que ça va vous parler de la même manière que ça m'a parlé. Et en fait, il se trouve qu'à Noël, on avait dit qu'on n'offrait pas forcément un cadeau à Eva parce qu'elle est tellement petite, elle a juste 6 mois, et puis il se trouve qu'elle a quand même reçu un cadeau. Et effectivement, elle a reçu un petit cadeau qui était emballé, et puis on lui a donné ce cadeau-là, et puis on s'est mis à le déballer avec elle, et puis est arrivé ce qui devait arriver forcément. Eva était bien plus intéressée par l'emballage qu'il y avait autour de ce cadeau-là que par le cadeau lui-même, en fait. Et elle a complètement délaissé le cadeau de côté pour se concentrer sur l'emballage. Et en fait, ça, cette petite chose-là, m'a en fait marqué, et elle m'a parlé. Et je me suis demandé si, en fait, dans ma vie, c'était pas un peu la même chose parfois. Est-ce que parfois je suis plus intéressé par ce qui vient avec Jésus que par Jésus lui-même ? Et c'est une question facile, mais je crois que c'est une question profonde en fait. Est-ce que parfois, dans notre culture et dans notre culture chrétienne, je ne peux pas être plus intéressé par tout ce qui vient avec Jésus, qui est tellement merveilleux, que par Jésus lui-même ? Et voilà, j'avais envie de parler de ça ce matin. Et j'aimerais vraiment, en préambule de ce message, que personne ne se sente condamné par mes paroles. Peut-être de temps en temps, je vais être incisif par rapport à notre culture, par rapport au danger de ce qui s'infiltre aujourd'hui dans le monde chrétien, de ce qu'on voit dans notre société. Mais j'ai envie de dire et de rappeler en aucune manière, je suis incisif envers qui que ce soit, et je me mets dans ce même panier ce matin. J'ai juste envie que ce matin, on se laisse interpeller vraiment par cette question-là et qu'on regarde notre cœur honnêtement en face. Ok ? Vous êtes avec moi ? Amen. Parce qu'en fait, on vit dans une culture qui est nombrilocentrée. Farid, il aime bien que j'ai inventé ce message-là. Le nombrilocentrisme, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre culture. Ça se développe absolument partout dans notre société et malheureusement, ça infiltre aujourd'hui le monde chrétien. Et cette culture-là, en fait, dans laquelle on baigne aujourd'hui, elle place l'humain au centre. Voilà ce qui se passe. Et c'est le message qu'on entend du matin au soir dans les publicités, dans les films, à l'école, au travail, partout, dans tous les domaines. Je suis confronté en permanence, quand vous commencez à y être attentif, c'est hallucinant, je suis confronté en permanence à ce message qui me dit que je suis au centre. Je suis au centre, je suis au centre de ma vie, je suis au centre, mes besoins sont au centre de ma vie, mes envies, mes désirs, etc. etc. Et je suis au centre. Voilà le message qui m'est envoyé à la figure en permanence. Et pourtant, la Bible, qu'est-ce qu'elle me dit ? La Bible, elle me dit que c'est Jésus qui est au centre. Elle ne me dit pas que je suis au centre, elle me dit que je compte, que je suis précieux pour Dieu, mais elle me dit que c'est Jésus qui est au centre. Et donc, qu'est-ce qui se passe tout le temps ? Il y a un choc. Il y a un choc de culture, là, dans mon cœur. Il y a un choc de culture dans ma personnalité, dans mon être profond, entre ce message qui m'est envoyé en permanence que je suis au centre et ce message de la Bible, de la parole qui me dit que Jésus, lui, est au centre. Et ce choc de culture, forcément, il est tellement violent qu'il vient modeler, modifier, transformer notre façon d'approcher l'Évangile, notre façon d'approcher la foi. Et j'avais besoin qu'on en parle ce matin. Alors je ne dis pas, et je le redis encore une fois, que la compréhension de qui je suis, ce n'est pas quelque chose qui est important. Au contraire, c'est absolument capital de comprendre qui on est. C'est capital. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas en mettant mes besoins, mes envies, mes aspirations au centre que je vais comprendre qui je suis. Mais c'est en regardant à Christ que je comprendrai qui je suis en lui. C'est ça que la parole de Dieu, elle me dit. C'est en Christ que je trouve mon identité. Et ce n'est pas mon identité au centre avec Christ qui est reflété dans mon identité. Non, c'est en mettant Christ au milieu de ma vie et en regardant à lui que je trouve qui je suis parce que je suis appelé à lui ressembler. Vous me suivez ? C'est en mettant Christ au centre. Et donc, comme Eva et son cadeau de Noël, on est aujourd'hui, malheureusement, et c'est vrai, de plus en plus intéressé par l'emballage qui vient avec Jésus plutôt que par Jésus lui-même. Par en fait ce dont je suis au bénéfice plutôt que par celui qui en est l'auteur. Et c'est sournois. Et ce matin, je ne suis pas en train d'opposer deux choses. Je ne suis pas en train d'opposer ce qui vient avec Jésus et d'opposer Jésus, l'un et l'autre. On n'a pas à choisir entre les deux. Je suis juste en train de parler d'une dimension de priorité. Aujourd'hui, on se préoccupe énormément de ce qu'on gagne avec Christ. L'amour de Christ, et combien il est merveilleux. Et combien aujourd'hui on est préoccupé par ça. Combien Dieu m'aime, et c'est important pour nous. Combien on a de chants qui proclament ça aujourd'hui. Presque tous. On chante presque plus que ça. Ta grâce, ton amour, Seigneur. On le chante souvent plus que je plie le genou et je te rends gloire. Posons-nous la question. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Vous connaissez ma réponse. Hein ? L'amour, la grâce de Dieu, le pardon reçu en Jésus-Christ, la destinée qu'il ouvre devant nous, ses bénédictions, sa paix, notre vocation, le salut, notre héritage, ses dons, notre filiation royale, notre identité nouvelle. Je veux dire, toutes ces choses-là, elles sont absolument excellentes et c'est normal qu'on y regarde. Jacques 1, 17 nous dit « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. » Et c'est excellent. Et la Bible, elle dit que c'est excellent. Elle dit que l'amour qui est manifesté en Jésus, il est absolument excellent. Que son pardon, il est excellent, que ses bénédictions sont excellentes, que les dons qui nous sont accordés sont excellents. Toutes ces choses sont merveilleusement excellentes. Et il est bon qu'on y regarde. Mais souvenons-nous juste que ça, c'est l'emballage. C'est l'emballage. Et ce n'est pas le cadeau. Et on vient de passer Noël et on a dit « Christ est le cadeau, Jésus est le cadeau, c'est lui qui a été fait » comme cadeau par le Père, en étant donné. Il a quitté la gloire de son Père, il est venu là marcher comme un enfant, grandir jusqu'à être sacrifié sur la croix, donner sa propre vie, rentrer dans le séjour des morts pendant 3 jours, être séparé de son Père, ce qui n'était jamais arrivé. Il est le cadeau qui a été donné. Et notre attention, elle doit se porter en priorité là-dessus. Rappelons-nous que c'est lui, le vrai cadeau. Parce que si on se préoccupe trop de l'emballage au lieu du cadeau, on va oublier l'essentiel. On va oublier que l'essentiel, ce n'est pas tout ce que Jésus peut m'offrir ou me donner, au risque que finalement je réponde à cet évangile-là. Je vais répondre à un évangile de tout ce que le Seigneur fait pour moi. Et c'est une réalité que Jésus fait des choses pour nous. C'est une réalité qu'on est béni. C'est une réalité qu'on soit au bénéfice de son amour, de son pardon. C'est une réalité qui nous sauve. Mais si je me préoccupe trop de cet emballage-là, qui est une réalité, je vais oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que je suis appelé à donner ma vie, à sacrifier ma vie pour lui. Et Paul nous dit que de vouloir garder sa vie, c'est une perte. Et que le seul gain dans nos vies, c'est Christ. Ce n'est pas tout ce qu'il offre, c'est Christ. Et au travers de lui, il y a tout le reste qui vient aussi. Et quand bien même, et je ne sais pas si vous êtes capable de dire ça, mais j'aimerais que vous le soyez avec moi, quand bien même Dieu ne m'aimerait pas, ça paraît inconcevable, mais quand bien même Dieu ne m'aimerait pas, je devrais l'adorer. Et reconnaître qu'il est Dieu. C'est ça, se concentrer sur le cadeau. Quand bien même, je ne serais pas sauvé par Jésus-Christ, il n'en mériterait pas moins que je devrais plier le genou devant lui et reconnaître qu'il est Seigneur. C'est dur ce qu'on est en train de dire, parce que Jésus nous aime, Jésus nous sauve, et on est en train d'essayer de séparer quelque chose qui n'est pas possible, mais je grossis le trait volontairement, vous comprenez ce que je veux dire ce matin. Quand bien même, il n'y aurait pas tout ça. Quand bien même il ne me ferait pas grâce ou il ne me bénirait pas, eh bien je devrais le remercier pour qui il est, car il est Dieu. Et en premier, mon cœur doit se tourner et le remercier pour qui il est et non pas seulement ce qu'il fait. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Attachons-nous au cadeau. Nous attachons pas à l'emballage. Alors, est-ce qu'on s'intéresse plus à cet emballage qu'au cadeau? On a envie de dire mais non, non, et moi je suis comme vous, j'ai envie de dire non. Bien sûr que non, Jésus, c'est toi qui es le plus important dans ma vie. Mais pourtant, j'aimerais juste qu'on regarde nos cœurs en face, avec sincérité, dans le secret. Je veux dire, voilà. Et qu'on se laisse juste interpeller par cette question-là ce matin. Et j'aimerais, en fait, nous inviter à réfléchir ensemble au sens profond qu'on peut donner à ces trois mots aujourd'hui. Je suis chrétien. Quel sens on donne à ça, finalement? Par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que je regarde à Christ? Est-ce que je le reçois comme un cadeau? Finalement, je suis chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Et j'aimerais vraiment qu'on regarde ça ce matin. Et ça me semblait important qu'on démarre cette année 2021 sur cette base-là, de se poser cette question-là. Alors, je suis chrétien. Je vous propose qu'on commence par Matthieu 16, versets 15 à 17, qui dit « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon Pierre répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Et ce passage-là, c'est vraiment une interpellation de Jésus à ses disciples, mais je crois que c'est une interpellation de Jésus à chacun de nous aujourd'hui. Et Jésus est en train de dire « D'après toi, qui je suis ? D'après toi, qui suis-je ? Est-ce que je suis celui qui te donne ? Ou est-ce que je suis celui qui est ? Et qui te donne aussi ?» Et c'est nécessaire de reconnaître que Jésus est Seigneur, mais c'est nécessaire aussi de le connaître en tant que Seigneur. Je reconnais qu'il est Seigneur, mais c'est, je dirais, encore plus important de le connaître en tant que Seigneur. Et c'est vraiment mon premier point ce matin, connaître Christ. Et on ne peut pas se dire chrétien si on ne connaît pas Christ. Et si on ne cherche pas à connaître Christ. Sinon, je suis chrétien de qui ? Être chrétien, ça a trait à la personne de Christ. Ça n'a pas trait à une idée vague, à un concept qui est généraliste, à une religion. Ça a trait à une personne qui est venue sur la terre, qui s'est sacrifiée pour sauver l'humanité tout entière. Et donc, si ma foi, elle est basée juste sur une idée vague de Dieu a envoyé, oui, il sauve, sur des concepts généraux, je ne sais pas trop. Jésus, ouais, bah c'est un gars qui est venu il y a 2000 ans, et puis bah aujourd'hui, par contre, je suis sauvé si je crois en lui. Si ma foi, elle est fondée là-dessus, au moment où va venir la tempête, ma maison, elle va s'écrouler. Parce que mes fondations seront du sable. Et la Bible, elle le dit, hein, si nous sommes posés sur du sable, quand la tempête vient, la maison, elle s'écroule. Mais à l'inverse, si ma foi, elle est fondée sur la connaissance de qui est Jésus, alors à ce moment-là, mes pieds, ils sont solidement établis sur un roc qui, lui, ne chancelle pas. On a dit tout à l'heure, il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation en Dieu. Et Jésus est comme ça. Et il est ce rocher sous nos pas. Et donc, si ma foi, elle est accrochée au fait de connaître ce Christ-là, mes pieds sont solidement appuyés sur ce rocher-là. Et je ne chancellerai pas. Et ma vie, elle tiendra ferme. Et Paul nous le dit aussi dans Éphésiens 4, versets 13 et 14, où il nous parle du fait de parvenir jusqu'à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Nous ne sommes pas appelés à demeurer de petits-enfants. Eva, elle va grandir Elle va s'intéresser aux cadeaux. Ses frères et sœurs, ils nous l'ont montré, ils étaient moins intéressés par l'emballage que par ce qu'ils avaient reçu. Parce qu'ils ont grandi. Et spirituellement, nous sommes aussi appelés à grandir, à ne pas demeurer des enfants. Et Jésus, il va aussi plus loin quand il dit, dans Jean 17, verset 3, il nous dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, il parle à son Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus est en train de nous dire que le fait de le connaître, c'est ça la vie éternelle. Connaître Christ. Et cette dimension de la connaissance de Christ, elle est profonde. Dans l'Ancien Testament, quand il était question d'un mariage, on nous parle de Abraham connu Sarah. Quand ils se sont unis, et dans l'unité, quand la Bible elle parle de connaissance, elle parle d'unité, elle parle de symbiose. Elle en parle pour le mariage. Quand les deux deviennent une seule chair, ils se connaissent. Et c'est de cette manière-là que Jésus nous appelle à le connaître. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Jésus, il n'est pas en train de dire « étudiez qui je suis ». Il est en train de dire « découvrez-moi, rencontre-moi ». Il nous rappelle « je suis une personne ». Et si aujourd'hui tu réponds à cette question-là, tu es quoi en disant « je suis chrétien », ça commence par là. Je suis chrétien pourquoi ? Parce que je connais Christ. Parce que je connais Christ. Et donc, je m'invite aussi, pendant cette année 2021, à développer encore ça. Développons le temps qu'on peut passer avec Christ, à chercher à connaître Christ, à passer du temps avec lui, parce que Jésus nous dit que c'est l'essentiel. Et Christ, il y a trois manières principales dont il est révélé. Premièrement, il est révélé dans la parole de Dieu. Vous ouvrez vos Bibles, vous êtes avec Jésus. Ou vous ouvrez votre application Bible, ça marche aussi, Jésus est moderne. Vous êtes avec Jésus. Pourquoi ? Parce que la parole, elle nous dit clairement qu'il est la parole, il est le Logos. La parole est Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole est devenue chair. C'est Jean qui nous dit dans son premier chapitre. La parole est devenue chair, et elle a marché parmi les hommes, et les hommes ne l'ont pas reçue, etc., etc. Jésus est la parole. Alors si vous voulez connaître Jésus, si vous voulez connaître Christ, si vous voulez relationner avec lui, ouvrez vos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. On n'a plus envie de lire aujourd'hui. Je bataille avec mes enfants pour les faire lire. On y arrive. On y arrive. Mais c'est de moins en moins dans notre culture de passer du temps à lire. Et donc soyons attentifs à ça. On perd petit à petit du temps de lecture de la parole aussi, parce qu'on devient feignant en lecture. Et donc, on est dans les bonnes résolutions. Ouvrons notre parole, ouvrons la parole, lisons la Bible. C'est une manière de connaître Christ. Continuons de le faire vraiment tous les jours. On vient de regarder, on a passé tout l'évangile de Matthieu hein, pendant un trimestre, et c'était génial de voir nous attacher à regarder qui était Jésus tout au long de ce chapitre, tout au long de ce livre-là, 28 chapitres, où on a regardé qui était Jésus, qu'est-ce qu'il faisait, comment il était, comment il est révélé au travers de ces chapitres-là. C'était une vraie chasse au trésor. Eh bien, continuons là-dessus. Voilà, nous arrêtons pas parce que Matthieu est fini la semaine dernière, hein, on a terminé, mais continuons à chercher Jésus dans la parole et à chercher à le connaître. Le deuxième point par lequel Jésus est révélé, c'est qu'il est révélé par le Saint-Esprit. Et c'est une des missions du Saint-Esprit, c'est révéler le Fils et révéler le Père. La Bible est claire là-dessus. Et donc, si je veux connaître Christ, je passe du temps à prier, je passe du temps à louer. Et du coup, ça peut se faire en même temps. Je peux lire ma Bible, et puis je peux prier en même temps. Saint-Esprit, révèle-moi Christ dans ces passages. Ces mots, ils n'ont pas de sens là quand je les lis. J'ouvre ma parole, il n'y a rien qui se passe. Saint-Esprit, viens au secours de mon âme. Révèle, révèle. Je vous garantis que si dans nos cœurs, on est sincère et qu'on dit « Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes ouvrir mes yeux », le Saint-Esprit le fait. Et donc, un moyen de connaître Christ, c'est de passer du temps à prier. Passer du temps à lire notre parole, passer du temps à prier, passer du temps à louer. Ça paraît simple ce que je suis en train de vous dire. Et vous êtes, j'imagine, tous en train de dire, mais on le sait. Alors faites-le. Faisons-le. On le sait, mais faisons-le plus encore. Je crois qu'il y a une dimension de consécration dans ces domaines-là qui peut aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui dans nos vies. Pascal nous parlait ce matin de Dieu qui se révèle non pas avec la gloire du passé, mais une gloire nouvelle. Et nous appuyons pas sur ce que nous connaissons, sur ce que nous avons connu, sur ce que nous avons appris, sur ce que nous savons déjà. La Bible est inépuisable. Et vous pouvez passer la journée, l'année entière sur un seul et même passage et vous en tirerez encore des richesses. Donc, il est révélé par le Saint-Esprit, recherchons l'intimité de sa présence, recherchons cette intimité-là. Et par rapport à ça, j'avais juste envie de nous rappeler qu'il y a une bataille de l'attention aujourd'hui. Il y a une bataille de l'attention. Et les réseaux sociaux l'ont bien compris, avec toutes les notifications qu'on peut revoir en tout genre sur nos téléphones. Il y a une vraie bataille de « regarde-moi ». Et ça devient des fois difficile de passer un temps, surtout quand notre Bible elle est sur notre téléphone aussi, et qu'on a des notifs en permanence qui arrivent aussi, voilà, des choses qui sont là. Soyons juste vigilants à ça. Il y a une bataille de l'attention. Et donc, trouvons aussi des temps où on est capable de se déconnecter, tout simplement. Mettez vos téléphones en mode avion en vous disant, voilà, là, pendant allez, un quart d'heure, je suis off. Pendant un quart d'heure, je me mets à part. Juste parce que vous savez qu'à ce moment-là, vous faites en sorte que votre attention soit réellement à chercher Christ. Et enfin, le troisième moyen par lequel Jésus est révélé, c'est dans l'Église, c'est dans la communauté, c'est les uns et c'est les autres. Et combien je nous invite à continuer à rester attachés à l'Église locale, à une communauté locale, où qu'on soit, avec ceux qui sont en ligne aussi, je sais qu'il y en a qui sont à distance. La dimension de la communauté locale est essentielle. Jésus se plaît à se révéler aux uns et aux autres au travers des uns et des autres. C'est mystérieux qu'il veuille le faire comme ça, mais il le fait comme ça. Et donc, développons cet attachement à l'Église locale. Ça a du sens. Et c'est pour ça qu'on le voit dans les Actes des Apôtres, on le voit au début de l'Église. Il n'est pas question uniquement d'une Église universelle, de la communauté des croyants au sens large. Il est question de l'expression de cette communauté-là au travers de communautés locales qui sont plantées dans chacune des villes, qui se retrouvent dans les maisons. Les gens se retrouvent, ils connectent entre eux. Et il y a un sens à ça. Il y a un sens. Il y a un sens que Jésus, il se révèle dans ces liens fraternels, dans cet amour qu'on a les uns pour les autres. Il dit que le monde verra que nous sommes ses disciples. Parce qu'il est révélé au travers du fait qu'on est ensemble. Donc attachons-nous. Attachons-nous à la communauté. Soyons. Quand on n'a pas envie de venir un dimanche matin, posons-nous la question si c'est quand même pas bien qu'on vienne. Quand on n'a pas envie de venir ou de participer à un groupe de vie parce que oh, c'est un soir en semaine, j'ai déjà pas mal de choses, réfléchissons bien, mesurons. Aujourd'hui, comment est-ce que je connecte à la communauté ? Et je ne suis pas en train de dire ça pour dire « venez, venez, hein, il nous faut plus de monde ». C'est complètement détaché de ça. On n'est pas dans une recherche de « il nous faut du monde dans l'Église ». On n'en est pas là. Je suis en train de parler de connaître Christ. Tu veux connaître Christ ? Ouvre ta parole. Passe du temps à prier et rejoins une communauté. Va au contact des croyants. Amen ? Ok, on continue. Connaître Christ, ça c'est le premier aspect qu'on peut donner quand on dit « je suis chrétien ». Il y en a un deuxième derrière, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait de donner sa vie à Christ. On a dit que c'est l'essentiel quelque part. Hein. Si je me concentre sur le cadeau, si je ne me concentre pas sur l'emballage, en retour, je vais donner ma vie. Et par rapport à ça, j'ai envie de dire que Jésus, il n'est pas un bonus dans ma vie. Et là aussi, ça dépend comment est-ce qu'on a répondu à l'évangile. Est-ce que j'ai répondu à un évangile où Jésus venait finalement m'amener un badge, je suis sauvé, il m'apporte quelque chose? Ou est-ce que l'évangile auquel j'ai répondu, c'est que je dois donner toute ma vie à quelqu'un qui maintenant en est le propriétaire? Et il y a un changement de propriétaire dans ma vie. Et là aussi, je nous interpelle les uns et les autres à la manière dont on a répondu à l'évangile. Est-ce qu'aujourd'hui, on a accepté un Jésus qui est venu pour nous sauver, ou est-ce qu'on a plié le genou devant un Seigneur qui est aussi notre sauveur? Et ce n'est pas la même chose. Et il ne se passe pas la même chose dans ma vie. Et je ne suis pas chrétien de la même manière selon à quoi j'ai répondu. Et donc Jésus n'est pas un bonus dans ma vie. Galates 2:20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié avec Christ. Voilà ce que nous dit Paul. Et il a raison, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Le sauveur, c'est ce qu'il fait. Jésus est le sauveur, il a été le plus petit, puis il a été élevé au plus haut. Et il règne en maître sur toute la création. Et il règne sur ma vie. Et il est propriétaire de ma vie. Et si aujourd'hui je continue de me comporter en étant propriétaire de ma propre vie, je ne vais pas faire les mêmes choix que si je conçois que Jésus est le propriétaire de ma vie. Et en disant ça, je connais l'amour de Jésus, je connais sa bonté, je connais sa grâce, je connais sa bénédiction, et je sais que c'est un bon propriétaire et qu'il va se passer des choses infiniment meilleures si je lâche et que je lui donne les rênes de ma vie. Comprenez. Et je suis sûr que les uns et les autres, on l'a déjà fait. Mais parfois, on a tendance à les reprendre. On a tendance à reprendre. Et n'oublions pas, lâchons, lâchons. C'est lui le propriétaire. On est appelé à donner notre vie, on est appelé à abandonner notre ancienne nature pour revêtir un homme nouveau. C'est aussi ça, être chrétien. Ça nous l'est dit par Paul dans Éphésiens et puis dans Romains. Éphésiens 4 qui nous dit « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Débarrassons-nous du vieil homme, revêtons l'homme nouveau. Et Romains nous dit, Romains 13, « Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Et un peu plus loin, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire vos propres convoitises. » Revêtons-nous de Jésus-Christ. Et la conversion... Je parlais tout à l'heure du badge, on récupère un badge et puis on le pose là, c'est bon, j'ai le badge Christ, ce qui fait qu'au moment du jugement dernier, quand je vais passer devant le scanner, ça va scanner Jésus et puis c'est bon. Et ça ne se passe pas comme ça. Le mot repentance, ça commence par là quand on se convertit, le mot repentance, il implique un changement de direction complet. C'est-à-dire que j'allais par là... Yep, je tourne et maintenant je vais par là. Et quelque part, s'il n'y a pas un changement de vie, et si dans mes habitudes il y a quelque chose qui ne change pas non plus, posons-nous la question. Posons-nous la question de est-ce que j'ai une démarche de repentance à faire encore? Être chrétien implique un changement de vie. Ça nous l'est dit, ça implique de se débarrasser du vieil homme, ça implique de se débarrasser de cette ancienne nature et de vivre de manière renouvelée. J'interpelle beaucoup aujourd'hui, je le sais, mais c'est volontaire. Et encore une fois, c'est sans accusation. C'est juste pour qu'on regarde nos cœurs en face. Et honnêtement, je me mets dedans. Combien de fois je ne suis pas différent de n'importe quel autre sur la terre? Combien de fois j'ai de vieilles habitudes qui traînent et sur lesquelles je ne me bats pas particulièrement? Et le Seigneur est en train de me reprendre sur tout ça. Parce qu'être chrétien, c'est changer de cap. Être chrétien, c'est connaître Christ et c'est nous tourner vers lui. Parce que ma vie, elle est à lui, parce que c'est lui qui en est le propriétaire maintenant. C'est tout ça, je suis chrétien. Et enfin, le dernier volet de « je suis chrétien », c'est « et je marche à la suite de Christ. Jésus a dit dans Jean 21-22, « Toi, suis-moi », c'est écrit sur notre mur, hein. Et c'est quelque chose qui est absolument capital, parce que Jésus, il ne nous a pas assis sur une chaise en nous disant « Voilà, maintenant reste là, bouge pas, sois sage, sois gentil, je vais revenir ». Je vais revenir bientôt, comme j'ai fait avec ma chienne ce matin devant la boulangerie. Je lui ai dit, assis, pas bouger, je vais acheter du pain. Je suis revenu, elle était encore assise, incroyable. Non, Jésus, il nous dit, suis-moi, suis-moi. Et il en a fait des kilomètres, et il a bougé, et ses disciples, ils ont bougé avec lui. Et on est appelé à faire de la même chose. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que suivre Christ, ça implique que je sois en second, et que je ne sois pas en premier. Et des fois, on dit « Ah oui, je suis Christ !» Mais en disant ça, on est en train d'inviter Christ dans le chemin qu'on a envie de prendre. Et en fait, suivre Christ, ce n'est pas ça. Dans mon cœur, suivre Christ, c'est une démarche où je dis « Seigneur, c'est toi le premier, moi je suis second. Et j'ai envie d'avancer dans les chemins que toi, tu mets devant moi. » Et après, il n'y a pas de secret, on n'attend pas que les choses elles s'ouvrent, qu'elles s'écrivent en lettres de feu, etc. On a juste une démarche honnête et entière dans notre cœur de dire « Seigneur, j'ai juste envie de faire ta volonté, j'ai juste envie de marcher à ta suite, et donc, inspire-moi, parle-moi, renouvelle ta sagesse sur ma vie, fais-moi connaître ta volonté. » Et quand on prie tout ça, le Seigneur, il n'est pas sourd. Et croyons qu'il écrit dans nos cœurs, croyons qu'il écrit dans nos pensées, dans nos inspirations, dans nos intuitions, dans les choix que nous faisons les uns et les autres. Et soumettons toutes ces choses-là à la parole de Dieu aussi. C'est une façon de savoir si je marche du bon côté ou du mauvais côté. Mais donc il y a une question de soumission à sa direction qui est importante dans le fait de suivre Christ. La Bible nous dit aussi que nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur, c'est dans Ésaïe, que nos voix ne sont pas les voix, c'est ce que déclare l'Éternel, le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Et donc ça me parle aussi de quelque chose qui dit non pas ce que moi je pense, mais ce que lui, il dit dans la parole. Et ça, c'est quelque chose qui est important, et je veux juste m'arrêter là-dessus, parce que j'entends et je lis de plus en plus, je ne peux pas croire que. Je ne peux pas croire que. Je peux pas croire que Dieu soit comme ceci. Je ne peux pas croire que Dieu fasse cela. Je ne peux pas croire que. Et on l'entend et on le lit énormément aujourd'hui. Et je l'entends, et c'est ça qui est plus grave, de la part de personnes qui n'ouvrent même pas la parole de Dieu pour conforter cette position-là aujourd'hui, pour dire, mais finalement, ma croyance, est-ce qu'elle est biblique ou est-ce qu'elle n'est pas biblique? Est-ce que quand je dis, moi, je ne crois pas que Dieu, il ait prévu l'enfer pour certaines personnes et que certains vont aller en enfer, et en fait, je crois que Dieu, il est tellement bon, il va sauver tout le monde. Ok, moi, je suis prêt à ce qu'on en discute. Est-ce qu'on ouvre la parole? Oh non! Non. Ce « je ne peux pas croire que » il est puissant. Et il fait référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, le fait qu'on est au centre, le fait que c'est ce que je pense, le fait que c'est ce que j'accepte qui est important aujourd'hui. Et c'est un danger vraiment de notre culture parce qu'on est en train de modeler Christ et modeler l'Évangile à ce qu'on accepte qu'il soit. Et en fait, j'accepte Christ s'il correspond à ce que j'attends qu'il soit pour moi. Et si je n'accepte pas ça, si ça ne me convient pas, eh ben non, Christ, ce n'est pas pour moi. Il y a certainement autre chose dans la vie qui va me convenir. Et cette démarche-là, elle ne parle pas de plier le genou et de dire, mais en fait, même si Christ ne m'aimait pas, je serais quand même obligé de l'aimer. C'est aberrant ce que je dis, mais c'est une vérité. Il est Seigneur de toute la création. Il mérite mon adoration. La création tout entière le loue. Et donc, je dois le louer. Et même si le plan du salut n'était pas encore en marche, je serais obligé de reconnaître qu'il est Seigneur. Je ne peux pas croire que c'est un danger. C'est vraiment un piège. Et si je marche à la suite de Christ, peut-être qu'il y a des chemins qu'il va prendre ou des chemins vers lesquels je vais arriver qui ne vont pas forcément me plaire, que je vais avoir du mal à accepter. Mais à ce moment-là, juste souvenons-nous qu'il y a une dimension de soumission qui est importante. Dans le fait de suivre Christ, il y a une dimension de soumission à sa parole et soumission les uns aux autres, parce que ce Jésus, on l'a dit, se révèle de cette manière-là aussi. Donc soyons soumis les uns aux autres dans ce que nous vivons. Ouvrons nos cœurs, pas à tout le monde, mais ouvrons nos cœurs les uns aux autres présentons ce que nous pensons, ce que nous croyons, ouvrons ensemble la Bible. Toute cette démarche-là, elle est hyper importante pour qu'on soit ensemble une église à la suite de Christ, pour que tous ensemble, on soit « oui, moi je te suis Seigneur ». Vous comprenez ? Le christianisme, il a commencé après un ministère public de Jésus, où Jésus, il a été publiquement crucifié. Et puis ensuite, Jésus, c'est publiquement qu'il est sorti d'un tombeau qui était aussi un tombeau public. Il s'est montré publiquement à tout un public. Et c'est ce public-là qui a été raconté à tout le monde ce qu'ils avaient vu. Okay, il y a une dimension publique et non cachée de toutes ces choses-là. Et comment les autres religions, elles commencent ? Les autres religions, elles commencent dans le privé, avec quelqu'un qui fait un rêve à propos de Dieu. Ou alors, quelqu'un qui a une visite angélique. Ou alors, quelqu'un qui développe une idée personnelle à propos de Dieu. Et ensuite, c'est cette personne qui raconte à tous ce qu'elle a vu. Une seule personne. Et il y a un danger là-dedans. Et je voudrais juste nous rendre attentifs à ça. Il y a un danger à ne pas nous soumettre les uns aux autres. C'est qu'on soit notamment dans ce dernier cas de figure où des religions sont nées de ça, où des mouvements chrétiens naissent au travers de ça aujourd'hui, parce que j'ai une idée personnelle par rapport à Dieu, parce que j'ai un rêve, parce que il me semble recevoir une prophétie, un appel particulier, et je vais là-dedans et je témoigne à tous ce que Jésus m'a dit dans le secret, et c'est une vérité, et si je ne me laisse pas reprendre, ça fait des catastrophes aujourd'hui. Il y a une traduction de la Bible qui est en train d'arriver, qui est promulguée notamment par l'église Bethel en Californie, qui s'appelle The Passion Translation, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui se dit une traduction, mais qui n'en est absolument pas une. Il y a un nombre d'ajouts tout au long de la parole, d'interprétations personnelles, et pourtant, on conseille d'ouvrir ça et d'étudier la Bible à partir de cette traduction-là qui n'en est pas une, ce qui fait qu'on est en train d'ajouter des choses à la parole de Dieu et d'en faire une autorité. C'est grave ce qui est en train de se passer. Que ça ne se passe pas parmi nous, les amis. Gardons cette humilité de dire « j'ai besoin les uns des autres et je reconnais l'autorité de la parole et je me soumets à Christ ». Je ne veux pas me trouver en disant « je suis chrétien » et en ayant taillé ma propre voie de cette manière-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, hein, le fait de connaître la parole de Dieu, ça prend de moins en moins de place par rapport à la dimension de la révélation prophétique. Et je ne sais pas si vous l'entendez dans le monde chrétien, il y a énormément de mouvements aujourd'hui, de mouvements prophétiques qui recherchent en permanence le mot de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit, quelle est la révélation du moment. Il y a énormément cette dimension de la recherche de la révélation prophétique aujourd'hui dans l'Église, comparée un retour à ce que dit la parole de Dieu. Et en fait, je suis triste, en voulant combattre cette culture, de donner l'impression que je vais opposer la parole de Dieu et la prophétie, parce que ce n'est absolument pas le cas. Mais pourtant, on en vient presque là aujourd'hui. Combien on a cette recherche de la parole prophétique et qui ne vient pas se confronter à la parole de Dieu, et où du coup, on a des choses qui se passent, c'est n'importe quoi. Et ce n'est pas ça quand on dit « je suis chrétien ». La parole de Dieu et la soumission à la parole de Dieu, elle doit avoir une place prépondérante. La soumission à la parole de Dieu, c'est la soumission à Jésus-Christ. Et si je suis chrétien, je me soumets à la parole. Mais si je suis chrétien, je me soumets aussi à l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Et donc, je vais rechercher la prophétie, je vais rechercher cette parole prophétique. Et je vais la rechercher à la lumière de la parole. Et la parole va être éclairée à la lumière de la parole prophétique. Vous comprenez ? Et on ne doit pas opposer ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous avons des mouvements qui sont déséquilibrés. Certains qui rejettent la prophétie et d'autres qui rejettent, pas qui rejettent, mais qui mettent complètement de côté la dimension de l'autorité scripturaire et qui sont uniquement dans une recherche émotionnelle et prophétique. Et notre Église est fondée sur deux rails, la parole et l'esprit. Et nos vies doivent être fondées sur la parole et sur l'esprit. Et c'est de cette manière-là que nous devons marcher à la suite de Christ. Et si aujourd'hui je dis je suis chrétien, c'est parce que je connais Christ. C'est parce que je lui ai donné ma vie. Et c'est parce que je marche à sa suite sur la parole et sur l'esprit. C'est important, important d'avoir ces deux rails. Et donc j'espère vraiment, je vais conclure avec ça, qu'à l'aube de cette nouvelle année, je suis désolé si j'ai été incisif peut-être pour certains, mais je crois que c'était nécessaire. Je crois profondément au fond de moi que c'était nécessaire, pour moi, entre autres. De dire quel sens ont ces trois mots, je suis chrétien. Et j'aimerais nous interpeller par rapport à ça en ce début d'année. Quel sens ont ces trois mots, je suis chrétien? C'est quoi la vie chrétienne qui va découler de ça, du fait que je suis chrétien? C'est quoi l'expression de ma foi qui va émerger du fait que je dis je suis chrétien? Et tout ce qu'on a dit ce matin sont des éléments de réponse, mais je vous invite vraiment, vous, à chercher, à ouvrir votre cœur. Je vous invite à ne pas vous concentrer sur l'emballage, mais à véritablement regarder le cadeau et accueillir le cadeau qu'est Jésus-Christ. Je vous invite à prier, je vous invite à louer, je vous invite à passer du temps avec lui, je vous invite à ouvrir sa parole, je vous invite à connecter les uns aux autres en ayant la parole aussi ouverte au milieu de nous. C'est tellement, tellement, tellement important. Je nous invite aussi à rejeter toute la culture dont on a parlé, hein, qui me place au centre, qui place mes pensées et ce que je crois au centre, un piège de notre culture qu'on ne veut pas voir dans l'Église. On doit le rejeter, ça, et travailler ensemble à ce que ça ne fasse pas partie de notre modèle de vie chrétienne. Et que nos vies soient vraiment bâties sur ce fondement qui consiste à connaître Christ, lui donner notre vie et marcher à sa suite sur les deux rails que sont la parole et l'esprit. Et je finirai là-dessus. Dieu, il n'est jamais surpris par l'histoire. Et Dieu, il n'est pas surpris de 2020 et de la tournure de 2020 et de tout ce qu'on a pu connaître. Je veux dire, il y a beaucoup de lamentations qu'on peut lire aussi par rapport à 2020. Combien Dieu a fait des choses absolument incroyables pendant cette année-là. Combien Dieu a fait des choses merveilleuses dans cette année 2020. J'ai été choqué de voir que le Times pouvait dire que l'année 2020 était la pire année de je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'était le siècle, le millénaire ou quoi que ce soit. Enfin, c'était violent la manière dont ils en parlaient. Ça ne me semble pas juste. Ça me semble pas juste. On n'a pas connu la guerre. Ça ne me semble pas juste. Elle n'était pas si mauvaise que ça cette année. Et en tout cas, Dieu n'est pas du tout surpris par l'histoire. Il n'est pas surpris par 2020, il n'est pas surpris par un virus, il n'est pas surpris par tous les changements qu'on a nous subis, de ne pas pouvoir nous retrouver comme on voulait et où ça continue encore. Et donc, il ne sera pas surpris par 2021 non plus. Donc, confions-nous en lui, vraiment. Et en disant « je suis chrétien », reposons-nous complètement. C'est ça aussi le sens de « je suis chrétien », c'est « je vais me reposer en toi, Seigneur ». Je vais me reposer dans le fait que tu n'es pas surpris par ce qui arrive. Et en consacrant totalement nos vies à lui, on va voir des fruits, on va voir sa gloire manifestée, on va voir des âmes sauvées, encore comme on a pu le voir pendant cette année 2020. Amen. Alors, nous sommes chrétiens. Je nous invite à explorer ça. Je vous invite à vous lever. J'ai envie de prier. Chez vous, si vous voulez vous lever, vous avez le droit aussi. J'ai envie de prier, puis j'ai envie de juste nous faire un appel pour ceux qui sont interpellés par un point ou par un autre de ce que j'ai soulevé ce matin. Juste peut-être d'ouvrir les mains et de dire, Seigneur, je te donne ce point-là. D'accord? Je te donne ce point-là. Je suis interpellé par la dimension de la parole, je suis interpellé par la dimension de la louange, du temps dans ta présence, je suis interpellé par la dimension de la communauté, je suis interpellé par la dimension que tu es Dieu, je suis interpellé par la dimension de la culture dans laquelle je sens que je suis trop imprégné de cette culture-là. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé ce matin, je vous invite juste à ouvrir les mains et ouvrir les mains pour le donner à Christ. Et je vais prier par rapport à ça. Seigneur, merci de nous rappeler en ce début d'année, Seigneur, combien il est bon d'être à ta suite, Seigneur, combien il est bon d'être appelé tes enfants, combien il est bon de reconnaître que tu es Dieu dans nos vies, Seigneur. On reconnaît aussi que cette société, elle ne te reconnaît pas, Seigneur, que cette société, elle ne te connaît pas, que cette société, elle va dans une direction où elle ne te place pas au centre, Seigneur. Et toi, malgré ça, tu n'es pas surpris par tout ce qui se passe et tu restes en contrôle de l'histoire avec un grand H, Seigneur. Alors on veut se confier en toi, Seigneur. On veut nous reposer pleinement dans tes mains, Seigneur, parce qu'on sait que nous sommes en sécurité entre tes mains. Et on veut nous laisser interpeller à nouveau par le sens que ces trois mots ils ont pour chacune de nos vies. Je suis chrétien. Et nous demander, Seigneur, qu'est-ce que tu fais de nos vies au travers de ça? Qu'est-ce que nous faisons de nos vies au travers de cette réponse et de ces trois mots-là, Seigneur? Et je te prie particulièrement pour tous ceux qui te remettent en ce moment quelque chose, Seigneur, un domaine, Seigneur. Peut-être de se concentrer sur l'emballage plus que le cadeau, Seigneur. Pour toutes les personnes qui aujourd'hui remettent quelque chose, je prie vraiment, Seigneur, tu ne laisses jamais à vide, Seigneur. Je prie que ton esprit vienne déverser ta vérité, déverser ta sagesse, déverser ton amour, ta grâce, ton pardon, ta bonté, Seigneur. Déverse, viens rencontrer, viens visiter, Seigneur. Que ce début d'année où nous disons « Je suis chrétien » soit un temps de visitation, chacun dans nos foyers, un temps de visitation par ta présence, Seigneur, au milieu de l'Église, ici aussi, Seigneur, et même en ligne. Seigneur, nous avons un désir ardent de te voir grand et glorieux au milieu de nous, Seigneur, de te voir agir, de nous voir bouger, de nous voir courir à ta suite, Seigneur, et voir des fruits puissants encore cette année, Seigneur. Agis, Seigneur, agis, viens renverser ce qui n'est pas à ta gloire dans nos cœurs, Seigneur. Viens remettre en ordre ce qui doit être remis en ordre, Seigneur. Et fais de nous une nation sainte, Seigneur. Une nation sainte, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen.